Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Le Tchad, victime d'une attaque terroriste, c'est la première fois d'ailleurs que le pays fait l'objet d'une telle cible. Deux attentats suicides lundi, on va en parler et nous lancerons le débat évidemment dans un instant sur la lutte contre Boko Haram. 33 9 693 693 70. Mais d'abord, comme promis, nous retrouvons Karine Franck, toujours en direct de Dakar. Karine, la correspondante d'RFI au Sénégal. Vous êtes avec nous, Karine?
Oui, je suis avec vous.
Voilà. Et Dieudonné également en direct de Dakar. Dieudonné qui nous posait juste avant le journal une série de questions après l'expulsion surprise de la représentante de l'Union européenne en Gambie. Et Dieudonné, vous nous demandez quelles peuvent être les conséquences de cette expulsion, puisqu'on rappelle qu'Agnès Guillot a été contrainte donc de quitter la Gambie. Et Karine, l'Union européenne est quand même l'un des principaux partenaire économique de la Gambie, on imagine que cette expulsion risque de dégrader les relations.
Ah oui, dans une déclaration datée du 12 juin, l'Union européenne explique que cette expulsion pourrait affecter négativement les relations entre la Gambie et l'Union européenne. Alors la palette de mesures est assez large, hein. Cela pourrait être une simple mesure de réciprocité à l'endroit de l'ambassadeur gambien à Bruxelles, le gel de certaines aides, voire dans un cas extrême, des sanctions économiques avec la suspension de la coopération. Alors on n'en est pas encore là, hein, précisons du côté européen. Nous sommes toujours en train de dialoguer avec les autorités gambiennes. La Gambie peut encore revenir sur sa décision, il n'est pas trop tard, et d'insister, l'objectif de l'Union européenne, ce n'est pas d'envenimer les choses, mais bien de trouver une solution.
À suivre donc. Merci Karine pour ce complément d'information. Bonne journée à Dakar. Dakar où il est 8h43. Place à notre débat du jour. Vos réactions donc sur la lutte contre Boko Haram avec en toile de fond le double attentat suicide qui a frappé lundi la capitale tchadienne. Deux symboles de la République ont été visés. Le commissariat central et l'école nationale de la police où se trouvaient de nombreux stagiaires ont dénombre 28 morts dont 4 kamikazes et une centaine de blessés. Alors je vous le disais tout à l'heure, c'est la première fois que le Tchad est la cible d'une attaque terroriste. Ces attentats n'ont toujours pas été revendiqués, mais pour les autorités, il ne fait aucun doute, ils portent la marque de Boko Haram en représailles à l'engagement du Tchad contre les islamistes nigérians. C'est vrai que depuis le mois de février, l'armée tchadienne a déployé des milliers de soldats pour contrer l'avancée des djihadistes. Alors comment venir à bout de Boko Haram? La riposte des pays de la sous-région, et on pense évidemment au Nigeria, au Tchad, au Cameroun, mais aussi au Niger. La riposte de ces pays vous semble-t-elle à la hauteur? 33 9 693 693 70. Vous nous contactez, vous nous appelez et nous vous donnons la parole. Vous êtes nombreux évidemment et on comprend ce matin à nous appeler de N'Djamena au Tchad. Bonjour Mamadou.
Bonjour Monsieur Gomez.
Bienvenue sur notre antenne. Vous disiez au Standard que ces attentats étaient prévisibles.
Oui, en effet, depuis janvier, je crois que nous avions été menacés par la secte Boko Haram. Des représailles pour avoir, n'est-ce pas, nous impliquer dans la lutte contre ce secte. Donc aujourd'hui, si nous connaissons des attentats depuis lundi, c'est la résultante de notre implication.
Et malgré tout, il faut continuer à lutter contre Boko Haram et ne pas céder à la peur.
Non, nous ne cédons pas à la peur. Nous ne cédons pas à la peur. Mais moi, ma préoccupation, c'est aussi la sécurisation des autres villes du pays. Aujourd'hui, si la capitale N'Djamena est frappée, quel serait le sort de notre pays? Mais aussi, il y a un autre facteur, et qui n'est pas de moindre, qu'il faut ne pas négliger. C'est aussi l'injustice sociale, l'impunité institutionnalisée, l'exhibition des richesses amassées de manière illicite, font que certains Tchadiens se sont réfugiés, n'est-ce pas, dans la haine, dans le mépris, dans le rejet. Donc, est-ce que cela n'entraînerait pas de manière aussi évidente une implication quelconque de quelques cellules de monde qui seraient déjà réveillées?
Ouais. Donc vous pensez que Boko Haram recruterait au sein de la population tchadienne?
Oulala, Boko Haram, c'est aussi des nervis, des désœuvrés. Donc il y en a suffisamment dans notre pays, grâce à tout un phénomène qui donne la précarité, la pauvreté aurait engendré et qui céderait facilement, n'est-ce pas, à certaines tentations et qui ne sont pas des moindres.
Mmh. Effectivement. Mamadou, merci d'avoir appelé de N'Djamena. Jean-Luc, bonjour.
Oui, bonjour, Juan.
Vous êtes à Bamako, on vous écoute.
Je suis à Bamako, en fait. Voilà, donc moi, j'aimerais intervenir sur deux points. Le premier point qui semblerait peut-être un peu cynique de ma part, c'est j'aimerais rappeler qu'il y a quelques mois seulement, Idriss Déby demandait au chef de Boko Haram de se rendre ou bien il vient lui-même le chercher dans son repère. Oui. Je pense que c'est l'inverse qui se produit à peu près maintenant. Je dis ça pourquoi ? Parce que je pense que nos chefs d'État qui s'engagent dans cette lutte ont tendance un peu à minimiser un peu vraiment la force de frappe ou la force de nuisance de cette secte-là. Vous voyez, donc le Tchad aurait dû être la capitale la plus protégée, la plus sécurisée de l'Afrique de l'Ouest en ce moment-là, étant donné l'engagement de ce pays-là face à cette secte-là. Mais on constate que ce n'est malheureusement pas le cas. Mmh. Je demande aux autres chefs d'État qui sont impliqués dans cette lutte de ne pas répéter la même erreur dans leur propre pays. Deuxièmement, j'ai appris qu'il y a une force qui est en train d'être mise en place. Et c'est une très bonne chose, mais ça ne servira à rien, absolument à rien.
Pourquoi ?
Si cette force n'est pas dotée de moyens qu'il faut pour vraiment lutter efficacement contre Boko Haram.
Parce que enfin, cette force, elle va quand même rassembler près de 9000 hommes, 8700 militaires et policiers. Donc c'est assez conséquent comme déploiement.
Oui, oui, le nombre n'est rien si elle n'est pas dotée des moyens qu'il faut pour lutter efficacement et qu'elle ne peut pas se déplacer aussi vite que le font ces terroristes-là, parce que vous savez, Boko Haram ne fait pas une guerre conventionnelle. Nous, on a trop tendance à l'oublier. Ce n'est pas avec des Kalachnikovs et des auto-mitrailleuses qu'on pourra les contrer, malheureusement.
C'est vrai qu'avec Boko Haram, on n'est plus dans un affrontement direct, on est plutôt dans une guerre asymétrique avec, on l'a vu encore lundi, des attentats suicides, des attentats kamikazes, des embuscades, des raids éclairs. Et effectivement, il faut que les pays de la sous-région s'adaptent à cette nouvelle configuration de la guerre. Mais la force de frappe de Boko Haram a quand même beaucoup perdu de sa vigueur ces derniers mois, notamment depuis que le Tchad a engagé son armée contre les islamistes. On a vu que à plusieurs endroits, Boko Haram a dû fuir.
Mais écoutez, on dit qu'ils ont perdu de leur force de frappe, mais savons-nous exactement combien ils sont au départ et combien ils sont maintenant? Nous ne le savons pas. Nous ne savons pas si en temps ils ont recruté des gens. Nous ne savons pas réellement de quelle force ils disposent pour parler ainsi. C'est pourquoi je dis que nous avons trop tendance à nous reposer sur nos lauriers et à crier victoire trop tôt. Mmh. Et ce qui vient de se passer doit nous servir de leçon. Et j'insiste sur le fait que la force qui vient d'être mise, qui pied, ne doit pas se battre de façon réglementaire, comme d'habitude, contre Boko Haram. Il faut que cette force soit formée vraiment aux techniques de la lutte anti-guérilla, de la lutte anti-terrorisme. Je pense même qu'il est temps maintenant que nous demandions de l'aide aux partenaires étrangers pour qu'ils viennent nous apporter.
Oui. Enfin, ça fait des mois déjà que les pays de la sous-région demandent de l'aide aux partenaires occidentaux, notamment à la France, à l'Union européenne, aux États-Unis, des pays qui sont sollicités depuis plusieurs mois. Le Nigeria a même appelé l'Union africaine à soutenir financièrement cette force, qui certes a été créée la semaine dernière sur le papier, mais elle ne sera pas opérationnelle avant la fin du mois de juillet. Donc d'ici là, effectivement, Boko Haram peut reprendre du poil de la bête. On va, Jean-Luc, merci de nous avoir appelé de Bamako. On va donner la parole à Oumar. Retour dans la capitale tchadienne. Bonjour Oumar.
Bonjour Juan.
Vous n'êtes pas surpris, vous n'avez pas été surpris par ce double attentat.
Évidemment, nous, on n'a pas du tout été surpris que ce double attentat-là survienne. Mais ce qu'il faut noter, c'est les cibles. Les cibles qui ont été atteintes, c'est-à-dire le commissariat central, ici l'école nationale de police. Ça, Boko Haram a frappé très fort. Puisque, si on se souvient bien, le président Déby avait dit sur toutes les antennes que Aboubakar Shekau devait se rendre. Sinon, ils allaient aller le chercher. Et maintenant, voilà, ils ont choisi des cibles qui représentent même le symbole de la défense du Tchad.
Tout à fait.
Maintenant, ce qu'il faut déplorer, c'est que quand on voit, nous qui vivons en Djamena, nous savons comment les choses se passent. Avant ces doubles attentats, lorsque vous voyez le commissariat central et l'école nationale de police, on entre dedans comme on entre dans un moulin. Nos forces de défense et de sécurité ne sont pas équipées pour pouvoir prévenir un attentat.
Mmh. Et Il y a donc eu pour vous, et c'est un peu la polémique, c'est vrai, ces jours-ci à Djamena, il y a donc eu, selon vous, un manque de vigilance, comme l'affirment certains opposants.
Effectivement, parce que depuis que la secte Boko Haram a commencé à sévir, le Tchad n'avait jamais été atteint directement par un attentat. Donc, quand certains ont commencé par baisser la garde, soit disant que les forces de défense et de sécurité sont assez fortes et peuvent contenir n'importe quelle attaque. Malheureusement, voici ce qui s'est passé.
Ouais.
Et quand on arrive au niveau du commissariat central, les agents de sécurité que vous voyez là, les policiers que vous voyez là, ils ne font que réglementer la circulation. C'est-à-dire, qui doit entrer en premier et tout ça. On ne va jamais arrêter quelqu'un pour dire, écoute, toi tu ne dois pas rentrer, pourquoi tu ne dois pas rentrer, et tout ça.
Ouais.
Maintenant, ils ont investi la capitale de tous des barrages, des checkpoints et tout ça. Mais si on prend le cas de quelqu'un qui a sa ceinture explosive, hein, sur les reins, à quoi ça sert tous ces contrôles-là?
Ouais. Oui, donc il faut revoir, dites-vous, la sécurité. En tout cas, hier, tout au long de la journée, les forces de l'ordre ont quadrillé la capitale, ils ont fouillé les véhicules, envoyé des policiers, des soldats déployés aux abords des mosquées, des églises, des marchés, même sur les grandes artères. La police était évidemment visible. On a pu entendre sur notre antenne ce matin le président Déby qui disait regretter que malgré les consignes renouvelées au gouvernement, eh bien, la vigilance, reconnaît-il, était quelque peu retombée ces derniers temps. Abel, vous êtes tchadien, vous nous appelez de Paris. Bonjour Abel.
Ça.
Bienvenue, on vous écoute.
Oui, alors moi, je suis un peu, je vais pas totalement dans le même sens que le précédent intervenant, parce que, à mon avis, je pense que nous sommes en guerre aujourd'hui. Le monde entier est en guerre face à des personnes qui sont des suicidaires. C'est pas des personnes qui font de la guerre réglementaire ou des guerres conventionnelles. Donc c'est un peu compliqué parce que même les grandes puissances aujourd'hui n'arrivent pas à combattre les terroristes. Et moi, dire que ça va être juste un travail de force de l'ordre et autres, je pense que c'est se tromper de cible et c'est se tromper des acteurs qui doivent intervenir automatiquement dans cette guerre contre le terrorisme. Moi, je pense que c'est tout le monde. Il faut faire un travail de sensibilisation, un travail de conscientisation et un travail d'appel au patriotisme, à chaque individu, que chaque individu se dise que le terrorisme c'est une histoire qui concerne tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas combattre quelqu'un, on ne peut pas combattre le terrorisme parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est terroriste et qui ne l'est pas. Le voisin, il peut l'être. Ce n'est pas pour mettre la peur, mais il faut que les gens arrivent à comprendre que nous avons affaire à des personnes qui sont vouées à la mort. Quand on s'engage comme terroriste à aller dans une secte comme Boko Haram, on sait que la finalité, c'est la mort.
Et donc, il ne faut pas que ces attentats ne découragent la population tchadienne. Au contraire, elle doit soutenir plus que jamais son armée.
Absolument. Aujourd'hui, il faut reconnaître que tous les Tchadiens de par le monde sont prêts et soutiennent leur gouvernement, soutiennent l'armée. Moi, je suis opposant au régime de Déby, mais je dis que pour lutter contre Boko Haram, je suis prêt à prendre les armes et à aller combattre Boko Haram parce que ça, c'est un mal qu'il faut éradiquer. Parce que c'est un ennemi qu'on ne connaît pas. Déby, qu'on le veuille ou pas, la population doit savoir que Boko Haram doit être combattu et qu'on doit s'unir tous. Ouais. Raison pour laquelle tous les Tchadiens de par le monde, c'est pas que les Tchadiens, les amis des Tchadiens, les gens qui vivent dans le monde entier doivent savoir que le terrorisme, c'est pas une histoire. Hier, on pensait que Boko Haram, c'était seulement à Kaduna ou bien à Kano, dans une petite ville du Nigeria. Ils ont progressé petit à petit. On ne connaît pas qui et qui et combien.
Ils ont progressé petit à petit. On les a vus traverser la frontière du Cameroun, du Niger, du Tchad. Donc effectivement, ils sont bel et bien présents. Hier, en tout cas, François Hollande a salué l'engagement courageux du Tchad contre le terrorisme. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a lui condamné ce double attentat, tout en saluant le rôle courageux du Tchad dans la lutte contre Boko Haram. Le Niger, pays voisin, a exprimé sa consternation, son indignation après ce double attentat. Clément, vous êtes à N'Djamena. Bonjour Clément.
Oui.
Et comme Abel à l'instant, qui est tchadien de Paris, vous dites qu'il ne faut surtout pas que le Tchad remette en cause son implication dans la lutte contre Boko Haram.
Absolument pas, parce que dans tous les cas aujourd'hui, nous sommes touchés et en tant que tel, comme disait celui qui vient de passer, Monsieur Abel, tous les Tchadiens sont d'accord pour dire que le Tchad a été touché et plus qu'avant, le Tchad doit être celui-là qui doit être en avant dans cette lutte pour permettre à ce qu'on arrive à neutraliser, à supprimer Boko Haram justement. Parce que le sang des Tchadiens, des innocents, ne peut pas couler comme ça sans qu'il y ait un engagement encore plus fort. Je n'ai pas dit que l'engagement ne l'était pas. Mais plus que jamais, nous devons être au devant de la chose et continuer à aller là où ils sont pour les démasquer. Ouais.
À aucun moment, Clément, on voit que vous soutenez votre armée, mais on a vu ces dernières années l'armée tchadienne s'impliquer contre les djihadistes dans le nord du Mali. Depuis le mois de février, ils sont en première ligne dans l'opération régionale militaire contre Boko Haram. En tant que tchadien, vous souteniez ces interventions militaires, vous vous disiez, bah oui, c'est le rôle de notre armée d'être présente dans ces zones, du Sahel.
Il faut dire que soutenir totalement, ben, effectivement, dès l'instant que l'Assemblée nationale, qui est l'émanation du peuple, donne l'autorisation au gouvernement de déployer l'armée, à titre personnel, je suis d'accord pour que les armées viennent en aide à d'autres pays qui sont en difficulté. Comme aujourd'hui, le Tchad, nous savons qu'on est tout petit peu dans une situation de paix. Mais avant, il y a d'autres armées qui sont venues aussi dans l'histoire du Tchad venir nous soutenir pour avoir une paix. Donc il n'y a pas de raison que le Tchad ne soit pas dans des zones où il y a une volonté d'aider. Le Tchad sera là pour toujours aider.
Le Tchad qui est présent au Cameroun, au Nigeria, au Niger, plusieurs milliers de soldats ont été déployés ces derniers mois. Quand on parle de plusieurs milliers, ça veut pas dire grand-chose, mais il y a des chiffres qui circulent. Et on parle même de 5000 soldats déployés, ce qui est quand même conséquent. Merci à vous, Clément. Bonne journée à N'Djamena. Yvan, vous êtes au Nigeria. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous insistez, vous, sur la nécessité des pays occidentaux d'aider les pays de la sous-région pour lutter contre Boko Haram?
Ah oui, je crois que les pays occidentaux ont promis vraiment, en fait, ils ont promis des aides, la France et les États-Unis et la Grande-Bretagne ont promis des aides. Je pense que si ces aides-là viennent à temps et vraiment si ces aides se concrétisent, cette proposition se concrétise sur le terrain, je crois qu'on pourra très très vite rayer Boko Haram de la carte. C'est vrai que les efforts des armées africaines sur le terrain, je parle du Tchad, du Cameroun, du Niger, eh bien ont abouti ces derniers temps à paralyser un tout petit peu quand même eh bien, la nébuleuse Boko Haram. Mais si les aides promises par les Occidentaux viennent sur le terrain à temps, je crois que Boko Haram très rapidement pourra être véritablement démantelé.
Vous êtes confiant, mais vous qui êtes au Nigeria, ce qui change la donne tout de même, c'est le nouveau président nigérian qui est plus que jamais motivé pour traquer, éradiquer, anéantir Boko Haram. C'est la priorité numéro un de Buhari.
Oui, justement, c'est sa priorité. On sait très bien qu'il est en train de travailler pour ça, et très très durement. Je crois que très prochainement, il sera au Cameroun pour discuter toujours sécurité avec le président camerounais. Oui, tous ces efforts sont là, et c'est bien. Mais il faut dire que depuis un certain temps, le Nigeria s'est montré incapable de lutter tout seul contre Boko Haram. Et on sait que malgré aussi les efforts que les autres pays qui sont dans la coalition sont en train de fournir, Boko Haram a toujours des forces. Boko Haram n'est pas encore démantelé. Et je crois que
Il faut le soutien des Occidentaux, le soutien financier des Occidentaux, c'est ce que vous disiez tout à l'heure en introduction. Merci Yvan, je vous interromps, on est obligé de rendre l'antenne. Désolé à Lucien par exemple qui souhaitait réagir du Cameroun et à d'autres auditeurs de N'Djamena également. On aura certainement l'occasion d'en reparler dans les prochains jours. Demain, nous reviendrons sur la crise au Burundi puisque l'Union africaine propose que les dates des élections soient décidées dans le consensus. Autrement dit, cela implique forcément la reprise du dialogue entre le pouvoir et l'opposition. L'organisation panafricaine veut également envoyer des observateurs des droits de l'homme et des experts militaires sur le terrain au Burundi pour vérifier le processus de désarmement. Eh bien, toutes ces propositions ne semblent pas du tout du goût du président Pierre Nkurunziza, qui tient tête donc à l'Union africaine, à la communauté internationale. On en parlera donc demain et si vous souhaitez participer au débat, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Le standard reste ouvert.
C'était Appel sur l'actualité.